Mon invitée est championne du monde. Je la rencontre pour la première fois et j'ai toujours été impressionné de son parcours, surtout au cours des dernières années. C'est un parcours qui est relativement jeune, on peut dire depuis 2015, et elle était prête à 100% physiquement, mentalement, psychologiquement à défendre sa couronne demain soir. Combat de championnat du monde au Casino de Montréal, où d'ailleurs cette soirée-là est, va se jouer à guichet fermé. Marie-Ève Dicker avait prévu affronter donc la Dominicaine Lina Tejada. Coup de théâtre, à 24 heures du combat, on apprend que son adversaire serait aveugle d'un œil. Alors, bien entendu, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec a dit « Mais non, ça ne peut pas passer ici comme ça. » Mais comment se fait-il que cette pauvre jeune femme, Lina Tejada, a quand même boxé en République dominicaine. Elle a livré un combat le 5 octobre chez elle. Nous recevons ce soir Marie-Ève Dicker, toujours championne.
Toujours championne.
ça aurait pu être confirmé demain.
Ça va l'être sous peu.
Bon. Marie-Ève, oui. Racontez-nous cette histoire abracadabrante.
Abracadabrante est le mot exact. Je dois dire, je vais faire une petite mise en situation pour les auditeurs qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne dans le domaine. Je dois souligner le travail incroyable de la Régie des courses et des jeux du Québec et de Yvon Michel. Parce que avant de faire venir un adversaire d'un autre pays, on exige des examens médicaux qui sont très pointus, très concrets. On exige des CT scans, des examens de la vue, des prises de sang pour hépatite, VIH. Et Tejada avait fourni tous ces examens-là par des professionnels de la santé de la République qui étaient autorisés ici à fournir ces documents-là. Et c'était des rapports qui étaient erronés, qui ont été falsifiés. Donc, nous, on reçoit les rapports ici, la Régie reçoit les rapports, donne l'autorisation pour le combat. On fait venir Lina Tejada ici. Hier a lieu la conférence de presse. Elle conserve ses lunettes de soleil.
Ça, on a vu oui. Ça. D'abord, vous la dominiez. Vous oui. Êtes beaucoup plus grande qu'elle. Vous la dominiez d'une oui. Demi-tête au moins. Et on a tous remarqué, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses... Bon, peut-être c'est pour se donner un look.
Exactement.
Un peu,
pour le show. Ouais, exactement. Ça, de mon côté, c'est pas quelque chose que je ferais, mais on l'a déjà vu dans le domaine de la boxe, de voir des boxeurs qui conservent leurs lunettes de soleil. Donc, on se dit, elle est là pour faire son show, tant mieux. Et aujourd'hui a lieu la pesée officielle. Donc hier, nous, on fait la déshydratation, on fait la coupe de poids, on est prêt. Et avant de faire la pesée officielle, on rencontre toujours un médecin. Et là, c'est là que ça commence à s'étirer. Absolument, ça, c'est terminé vers 11h15, 11h30. Il est 11h50 et on est encore devant les médecins. Et là, Michel Hamelin, le président de la Régie des courses et des jeux, ainsi qu'Yvon Michel, m'annonce la nouvelle qu'elle est aveugle d'un œil. Et que le combat est cancellé.
C'est pas rien, là. Non. C'est pas juste qu'elle ne fait pas le poids.
Non.
Ou qu'elle a caché une maladie quelconque. Ou un test sanguin qui n'a pas été vraiment approuvé. Elle ne voit pas d'un œil. Elle est aveugle d'un œil.
Exactement.
Elle est borgne.
C'est sûr que de mon côté, je trouve ça vraiment... c'est là, anti-sportif, c'est comme, un manque de respect, mais c'est très triste.
Comment Yvon a réagi?
Yvon était sous le choc lui aussi. Il s'est retourné très rapidement parce que 5 minutes après, on avait une date pour un prochain combat. Il m'a regardé, il m'a dit « Marie-Ève, tu vas boxer très bientôt ».
Et ce sera quand?
Ce sera le 13 avril au Casino de Montréal.
OK, ça, c'est vite.
Oui, c'est très vite. Et quand je suis partie du casino, moi, tout à l'heure, c'est sûr que j'étais un petit peu déçue. Mais quand je suis partie du casino, je savais que je remontais dans le ring le 13 avril. Il ne faut pas se le cacher. Pour nous, les boxeurs, notre nana, notre bonbon, notre récompense, c'est le combat. On fait les efforts, on fait les sacrifices pour performer dans le ring. Donc, là, je me disais, j'ai tout fait ça. J'ai fait un camp d'entraînement.
Ça a duré combien de temps? À partir du moment là où vous vous mettez sérieusement... À l'entraînement pour un combat comme celui oui. Qui était prévu demain, 23 mars, ça a commencé quand?
12 semaines de camp d'entraînement.
Ouf.
Donc, c'est 12 semaines à 2 entraînements par jour, 6 jours par semaine, à part de toutes le suivi alimentaire, toute la boisson, tous les écarts de conduite, de se coucher tôt, de se coucher à 8h30 parce qu'on est au gymnase à 7h le lendemain matin, et ce, pendant 3 mois de temps, mis à part de la coupe de poids, de la déshydratation d'hier. Et là, on me dit, Marie-Ève, tu as tout fait ça, mais tu ne boxeras pas.
Alors, psychologiquement aussi, je disais, il faut arriver, le terme anglais, c'est à piquer
oui.
la veille du combat. Hein?
Oui,
c'est
effectivement.
Ça. D'abord, il faut faire le poids.
Oui.
Et vous l'aviez fait, le poids.
J'avais fait le poids, j'étais à 152,4 sur le pèse-personne. Donc, ce qui est très bien, parce que la limite de la catégorie est 154, donc j'étais même 2 livres en dessous. Donc, de mon côté, tout le professionnalisme, l'éthique de travail était fait.
Toutes les heures de sommeil, comme vous l'avez dit, tout votre système, votre métabolisme était préparé pour ce combat de championnat. Mm-hmm. Et maintenant, vous devez décaler tout ça de 2-3 semaines.
De 3 semaines, oui, effectivement. C'est un beau défi qu'on se lance, mon équipe et moi. On l'a fait un petit peu dans le passé parce que l'année dernière, j'ai boxé au mois de juin. J'ai reboxé tout de suite le 20 juillet. Et somme toute, on avait bien géré ça. Je sais que mon entraîneur est déjà en train de parler à mon préparateur physique, à mon préparateur mental, à mon conseiller en nutrition. Et lundi, on a déjà la rencontre d'équipe qui va nous permettre de bien gérer ça, de prendre quelques jours de repos parce que on se le cachera pas, un camp d'entraînement, c'est très exigeant. Et pour nous permettre de repiquer, d'arriver à notre sommet le 13 avril.
Vous dominez vraiment votre catégorie. Vous êtes championne du monde des super mi-moyens de la IBF. Et quand on regarde... La boxe féminine, c'est un sport, une discipline qui est encore relativement jeune.
Oui.
Parce que vous, Marie-Ève Dicker, vous avez livré votre premier combat professionnel en novembre 2015.
Mm-hmm.
Donc, ça fait à peine 4 ans.
Ça fait à peine 4 ans, mais comme vous avez pu voir, je boxe 4, des fois même 5 fois dans une année. C'est un rythme peut-être effréné pour certaines personnes. Chez les hommes, c'est quelque chose qui se voit très peu. Chez les femmes aussi. L'encadrement que j'ai, l'équipe que j'ai, puis le professionnalisme, l'éthique de travail qu'on a, nous permet de réaliser ça. Parce que moi, j'aurais pu aller manger de la crème glacée, boire du vin, mon combat est cancellé. Mais non, j'ai refait mon plan de reload, qu'on appelle, parce qu'après une pesée, on doit réhydrater. J'ai suivi à la lettre mon plan de reload, comme si j'allais boxer demain. Et c'est ce qui va faire que le 13 avril, ben, je vais être en parfaite santé et pas trop éreinté de ce camp d'entraînement-là.
Ça, j'en doute pas un instant. Vous êtes arrivé à la boxe via les arts martiaux.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Vous étiez ceinture noire.
J'étais ceinture noire 5e dan.
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a fait dévier vers la boxe féminine?
Moi, j'ai toujours été une grande fan des Jeux olympiques. Donc, dès mon tout jeune âge, j'étais en maternelle. J'écoutais les Olympiques de Barcelone et j'arrivais à mon professeur et je lui disais, « Madame Junette, aujourd'hui, on a gagné tant de médailles. » Ça a toujours été une fascination pour moi.
Mais attendez, Marie-Ève, il n'y avait pas de boxe féminine aux Jeux olympiques. Maintenant, il y en a.
Exactement. Et surtout, il n'y avait pas de karaté. Donc, à 24 ans...
Ah oui, c'est vrai aussi.
Exactement. À 24 ans, je regardais les Jeux olympiques à la maison parce que cette passion-là n'était pas passée. Et là, je me suis dit, je peux pas croire que dans ma vie, je n'irai jamais aux Jeux olympiques. Et là, mon copain de l'époque me dit, en blague, ben t'as 2 choix, soit le taekwondo, qui est une discipline olympique, ou la boxe, qui était la première année où il y avait des femmes. Et je dis...
La boxe est arrivée aux Jeux de Londres,
oui,
en 2012.
Exact. En 2012. Donc, mais il parlait déjà en 2008 de la mettre à l'essai. Donc là, j'ai dit, je pense que je peux donner des meilleurs coups de poing, des meilleurs coups de pied, je vais aller boxer. Et là, tout le monde est parti à rire en voulant dire, tu peux pas commencer un sport à 24 ans et atteindre les sommets. Et je suis là aujourd'hui.
Mais vous auriez pu faire comme Georges Saint-Pierre, aller en boxe, enfin, en sport de combat extrême?
Mais c'est pas un sport qui m'attire.
Il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Il y avait des superstars, Ronda Rousey,
oui.
Jusqu'à temps qu'elle soit knockoutée de façon spectaculaire.
Effectivement.
Mais c'était très populaire. C'est très populaire.
C'est très populaire, mais moi et mon entraîneur, on s'était déjà parlé et il m'avait dit, Marie-Ève, si tu fais ce sport-là pour l'argent, lâche tout de suite parce que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Puis c'est la raison pour laquelle je boxe avec passion à tous les jours parce que, oui, maintenant, je gagne bien ma vie, mais si je regarde, si j'étale ça sur le nombre d'heures d'entraînement et de sacrifices que j'ai fait, je pense qu'on va m'envoyer en dessous du seuil de la pauvreté et de très loin.
Marie-Ève Dicker, donc, on va faire une pause.
Oui.
Et malheureusement, on a appris aujourd'hui que son adversaire, qu'elle devait affronter demain au Casino de Montréal, dans un combat de championnat du monde, c'est-à-dire qu'elle défendait son titre, Lina Tejada, est aveugle d'un œil. On l'a appris aujourd'hui ici à Montréal. Et évidemment, c'était beaucoup trop dangereux. Et la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec a décidé d'annuler ce duel. On revient après la pause. Et nous revenons pour les prochaines minutes, avant la fin de l'émission, avec Marie-Ève Dicker, championne du monde, qui croyait bien défendre son titre demain au Casino de Montréal. Son combat a été annulé car son adversaire dominicaine, Lina Tejada, serait aveugle d'un œil. Marie-Ève, est-ce que votre sport, la boxe féminine, c'est un peu comme le hockey international féminin? C'est-à-dire que c'est trop jeune encore pour avoir une quantité impressionnante de boxeuses. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve dans une situation où il y en a une qui est envoyée, mettons, comme de la République dominicaine, elle arrive ici. Et puis bon, elle n'a pas le carnet nécessairement. Au hockey féminin, on a souvent dit, il y a 4 équipes.
Oui.
Il y a les Canadiennes, les Américaines, puis juste un cran en dessous, il y a les Suédoises et les Finlandaises.
Dans ce cas-ci, nonobstant le fait que ce soit une femme, c'est un incident qui aurait pu se produire autant chez les hommes. C'est arrivé notamment à Eric Lucas pour des raisons médicales. C'est vraiment un travail de document falsifié du côté de la République. Donc, je pense pas que ça ait à voir avec le sexe. Par contre, effectivement, le bassin est plus faible, mais comme on le voit souvent chez les femmes bougent de catégorie de poids. Donc, de mon côté, on va chercher des boxeuses de 135 et on a déjà combattu des filles de 165 livres.
Donc, oh, ça varie beaucoup dans votre...
Énormément, ouais. Parce que c'est facile pour une femme d'être classée par les différentes associations dans différentes catégories de poids. Tandis que chez les hommes, le bassin est tellement grand que lorsqu'ils changent de catégorie de poids, ils perdent leur classement. Donc, chez les femmes, c'est quelque chose qui se voit très régulièrement. Des filles qui vont boxer, de mon côté, 135, 140, 147, 154. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent.
Alors, Marie-Ève Dicker, vous avez rêvé des Olympiques. Vous étiez folle des Olympiques. Vous étiez devant les Jeux Olympiques. Vous apprenez que la boxe féminine arrive aux Jeux de Londres en 2012. Mais il n'y avait pas toutes les catégories. On en ajoute d'ailleurs, là. Il y en a une qui va être ajoutée en 2020 à Tokyo, welter, welterweight. Mais c'est un peu plus bas que votre poids naturel de combat, ça?
Oui. Ben, en fait, chez les amateurs, je boxais à 140 livres et pour les Jeux olympiques, j'aurais dû faire 132 livres.
Mais ça, c'est dur, ça, d'abaisser son poids comme ça, non?
C'est très, très, très difficile, mais j'étais prête à faire tous les sacrifices, comme je le suis encore maintenant, et on le voit avec mes adversaires. Je suis toujours plus grande qu'eux, parce que moi, je les fais, les sacrifices, et je veux optimiser ma grandeur tout le temps.
Oui, ben c'est vrai, votre grandeur, 5 et 8?
5 et 8, oui.
5 et 8. D'ailleurs, vous aviez sur la photo dominé d'une demi-tête votre futur adversaire. Et alors, pourquoi on ne vous verra jamais aux Jeux olympiques?
Parce que les Olympiques, comme le soccer, comme le hockey, dès qu'on tombe chez les professionnels, on ne peut plus revenir en arrière. Dans ma carrière amateur, j'ai été victime d'une blessure qui m'a mis un an de temps à l'écart du ring. Et j'ai été confrontée vers le choix de passer un autre 4 ans pour un cycle olympique chez les amateurs ou de réaliser mon autre rêve qui était de devenir boxeuse professionnelle. J'ai sauté tout de suite sur
Est-ce que vous risquez, dans votre... Parce que vous êtes jeune encore, début trentaine, et vous allez peut-être vous coltailler avec des boxeuses qui ont été médaillées olympiques.
Oui.
Est-ce qu'il y en a...
Oui, il y a Katie Taylor, il y a Clarissa Shields. On a déjà des offres pour ces boxeuses-là.
Elle a gagné et en 2012 et en 2016. Deux médailles d'or. Clarissa Shields, chez les moyens.
C'est ce qui fait... C'est ce qui permet l'émergence de la boxe féminine parce que maintenant, on a des athlètes qui sont entraînés comme les hommes, comme des vrais athlètes et non juste des femmes qui font ça comme hobby, comme passe-temps et qui sont dans le gymnase 2-3 fois par semaine. Donc, de plus en plus, les boxeuses vont être de qualité et la boxe va être reconnue pour vraiment la technique.
Votre avenir est devant vous.
Oui.
Qui étaient vos idoles? Évidemment, forcément, on est obligé de regarder chez les hommes parce que il n'y avait pas de boxe féminine avant.
Moi, j'ai regardé Roy Jones des milliards de fois et Lucien Bouté pour son célèbre coup au foie. Ce sont deux boxeurs que j'ai admirés tout au long de ma carrière amateur que je continue de regarder maintenant. Et je dois dire que c'était mes deux grands idoles.
Lucien qui nous a visités hier pour tellement de raisons. Pas seulement pour ses qualités athlétiques.
Non, effectivement.
C'est un homme remarquable, Lucien.
C'est un homme de classe. C'est un homme qui a aidé à changer la perception de la boxe parce que très longtemps, on associait la boxe à des truands, à des gens qui avaient peu d'éducation, qui ne pouvaient pas s'exprimer.
Lui, on disait souvent de lui, il n'est pas assez méchant pour être boxeur.
Ouais, mais il nous a ouvert la voie.
Mais vous aussi, vous êtes championne du monde et vous n'avez pas l'air méchante.
Non, mais dans le ring, quand je veux garder ma ceinture, c'est une autre histoire.
Marie-Ève, c'est très gentil de nous avoir visités avec aujourd'hui. En studio, parce que je sais que c'est une grande déception. On voulait vous voir en action demain soir.
À défaut de boxer, casino. J'ai fait les entrevues.
Oui, mais on va vous voir dans 3 semaines.
Oui.
Marie-Ève Dicker, championne du monde, IBF. Merci beaucoup.
Merci.
Je remercie Catherine Huet et Alexandra Pouliot à la recherche, Toby Forget à la mise en onde. Bon week-end, tout le monde.